Est-ce que je peux me mettre à l'aise? Je sais pas, quand vous dites à quelqu'un qui vient chez vous, fais comme chez toi, c'est toujours risqué, vous savez. Hein. Mais vous me permettez de me mettre à l'aise. Parce que si je me mets là, très honnêtement, j'ai vraiment l'impression d'être dans le confinement Covid, vous savez, les distanciations, et c'est ce qu'on a vécu en fait. Hein. Donc je vais me mettre à l'aise. Donc pendant, je m'installe, hein. Désolé. Je vais me rapprocher de vous en fait. Bon, ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai l'habitude de faire comme ça. On va ce matin ouvrir la parole et parler de quelque chose qui concerne ce qu'est l'Église, mais ce qui est en même temps la mission de l'Église. Parce que j'ai l'habitude de le dire et je crois que c'est une vérité que l'Écriture nous révèle, que la mission c'est l'Église et l'Église c'est la mission. L'Église n'est pas autre chose que la mission. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Donc l'Église est l'aboutissement de ce que Christ veut accomplir. Et lorsque Jésus-Christ va paraître, c'est son Église sainte qui va apparaître. Donc l'Église, c'est la mission, elle accomplit la mission. Et on va s'intéresser à la fois ce matin à ce qui fait l'Église, ce qui la porte, ce qui la propulse, et ce que l'Église porte autour d'elle et apporte à ceux qui nous entourent, ce qu'ils voient de l'Église. L'Église existe par deux choses, par la parole, par la foi dans la parole, dans celui que la Bible désigne comme la parole, le Verbe incarné, hein, Jean 1, le Logos, la parole faite chair. Le Dieu qui s'est fait homme, se révélant aux humains, Jésus-Christ. La parole, qui est aussi l'Écriture centrée sur la personne de Jésus-Christ. Et l'Église, qui est née par l'Esprit, envoyée par le Saint-Esprit, Jésus-Christ est, ou plutôt équipé, il est le Messie, il est loin de Dieu, hein, celui qui est revêtu du Saint-Esprit, il est le Christ ressuscité et glorifié, qui a répandu son Esprit sur son Église, pour qu'elle continue la mission de Christ. Elle est oint à la suite du Christ pour continuer sa mission. Donc être chrétien, c'est faire partie d'un peuple qui est né en Jésus-Christ, qui est témoin de la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, un salut qui est pour tous. C'est être témoin avec la puissance du Saint-Esprit qui est répandue sur tous. Mais la parole et l'Esprit, c'est pas simplement donc ce qui fait l'Église, ce sont aussi les choses que le monde qui nous entoure a besoin de voir. La parole qui donne la vie, c'est de ça que le monde qui nous entoure, les hommes et les femmes qui nous entourent ont besoin. C'est cette parole qui donne la vie. Et ils ont besoin de l'Esprit qui vivifie. Donc essayons de... Alors c'est difficile hein, toujours de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, mais essayons d'adopter la perspective de ceux qui nous entourent. Ce monde qui nous entoure, de ces gens qui sont autour de nous, que vous connaissez au quotidien, vos collègues, vos amis, vos voisins, et puis ces gens qui passent là, en vélo. Quelle perspective ils ont? Qu'est-ce qu'ils voient de l'Église? Qu'est-ce qu'ils voient de nous? Qu'est-ce qu'ils voient de la parole et de l'œuvre de l'Esprit lorsqu'ils nous voient, lorsqu'ils nous observent? La parole, on l'a dit, c'est le témoignage rendu à Jésus-Christ, le Logos, parole divine. Et nous portons ce témoignage par l'annonce d'un message, le message de l'Évangile qui nous est donné dans la Bible. Donc dire ce que dit la Bible, c'est enseigner son enseignement, et ça c'est incontournable, c'est ce qu'on fait encore ce matin. Dans le Nouveau Testament, on trouve bien sûr cette idée d'un ensemble d'enseignements venant de la Bible. Il y a deux mots qui sont utilisés dans le grec du Nouveau Testament pour parler de cette réalité, c'est le mot didascalia, on le retrouve surtout dans les pastorales, et il est traduit par « saine doctrine ». Qui est appelée cette saine doctrine à guider l'enseignement et la vie de l'Église et des chrétiens. Et puis l'autre mot, c'est didaké. Alors c'est un mot qu'on va retrouver plus souvent encore et qu'on va trouver aussi dans l'enseignement, la doctrine que Jésus enseigne. Ce que Jésus enseigne, c'est didaké. Et on le trouve, ces mots, on les trouve dans Tite 1.9, je vous ai mis le texte ici. Attaché à la vraie parole, logos, la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, didaken, c'est le verbe ici, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine, la didascalia, et de réfuter les contradicteurs. Un enseignement fondé et qui vient du logos, de la vérité de l'évangile, de la vraie parole, de la manière dont elle a été enseignée, qu'elle a été reçue par ces chrétiens à qui il s'adresse, à Tite, hein, à travers Tite, et d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine qui doit se manifester dans nos vies, se révéler dans ce que nous vivons en tant qu'Église et ce que nous vivons en tant que chrétiens dans le monde. Mais quelle est la nature de cet enseignement ? Contrairement à la révélation à Israël, l'enseignement dans le Nouveau Testament ne se présente pas sous une forme légale, juridique. La loi a laissé place à la foi. La marche de l'homme livrée à lui-même, dit l'apôtre Paul, la chair, hein, la marche, essayer d'obéir à la loi de Dieu, ça a laissé place à une marche selon l'Esprit. Et le peuple de Dieu, c'est désormais un peuple de disciples au cœur transformé, changé, selon l'annonce des prophètes de l'Ancien Testament, et c'est accompli aujourd'hui dans la personne de Jésus. Cela veut dire que l'Église ne vit pas selon un code légal qu'on trouverait dans le Nouveau Testament en cherchant bien, mais selon des principes, des enseignements qui sont eux-mêmes selon la saine doctrine, la didascalia, c'est-à-dire la révélation de l'Évangile de Jésus-Christ. Dans 2 Timothée, je ne sais pas si j'ai mis le texte, j'avoue, 2 Timothée 4, mais je vous lis. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, la didascalia. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, se détourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » C'est l'encouragement de l'apôtre Paul à son collègue, son délégué apostolique qui était Timothée. La saine doctrine, c'est la prédication, dit Paul ici, d'une bonne nouvelle centrée sur une personne, la personne de Jésus-Christ. Et de cela, de cette prédication, de la bonne nouvelle, émane cette saine doctrine centrée sur cette personne, centrée sur Jésus-Christ, sur l'œuvre de Jésus à la croix. Jésus, sa venue en gloire et le royaume, dit l'apôtre. Et de cela découlent tous les principes qui vont guider la manière de vivre l'Église, de manière de vivre la vie chrétienne. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à vivre l'Évangile. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une parole, un enseignement abstrait. C'est quelque chose que nous sommes appelés à vivre, à intégrer dans notre vie. Et l'œuvre d'expiation à la croix par Jésus, le pardon des péchés, la résurrection, la glorification, le retour proche de Jésus pour établir un royaume sur la terre comme au ciel, cet Évangile-là, ça ne peut pas être neutre, ce message, dans ce que nous vivons aujourd'hui. Le chrétien, l'Église, vit vraiment dans l'attente de la venue du règne de Dieu. C'est non seulement une espérance, au sens usuel du terme, c'est d'abord une assurance, une espérance au sens assurance du royaume. C'est cette parole vivante. Alors l'apôtre Pierre en parle, je ne sais plus si j'ai mis le texte, j'avoue. Non, j'ai pas dû. Dans 1 Pierre 1, au verset 23, il dit « Vous avez été régénérés, vous avez reçu la vie nouvelle, non par une semence corruptible, et l'image c'est une semence qui est plantée dans les cœurs, dans les vies, une semence corruptible, périssable, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente, impérissable de Dieu. » C'est cette parole que nous recevons. Et ça, recevoir cette parole, ça implique un effort. C'est l'effort constant d'interprétation, de compréhension de l'Écriture à la lumière, comme je viens de le dire, de l'Évangile. Non pas à la lumière dans le judaïsme on le fait encore, à la lumière de la loi de Moïse, mais à la lumière de la rédemption en Jésus-Christ. C'est l'effort constant d'application, de contextualisation de la vérité de l'évangile dans nos vies. Et ça, on a un modèle dans le Nouveau Testament, c'est les apôtres. Les apôtres font constamment ce travail de contextualisation pour les églises du Nouveau Testament, pour ces premiers chrétiens, de cet évangile qui était d'abord adressé aux Juifs, mais qui maintenant se répand dans tout l'Empire, à toutes les nations, en fait. Et il nous donne un exemple à suivre pour la mise en œuvre de cette parole vivante aujourd'hui. C'est pour ça qu'on trouve, dans les épîtres, on trouve souvent des paroles doctrinales et parénétiques. On dit parénétiques, c'est-à-dire la mise en pratique. Elles se succèdent dans les épîtres. Alors parfois c'est très net avec Paul dans Romains à partir du chapitre 12 par exemple. Vous avez toute une partie doctrinale jusqu'au chapitre 12 et puis après c'est très parénétique, pratique, ce que les chrétiens sont appelés à vivre. La pratique, c'est-à-dire l'éthique, émane de la vérité de l'évangile et les disciples sont appelés à vivre cette vérité. On ne peut pas dire que les parties parénétiques pratiques ne soient pas importantes, d'accord ? Elles sont essentielles dans le contexte dans lequel ces chrétiens vivent. Je vais prendre des exemples. En Galatie, des églises fondées par l'équipe Barnabas, c'est Barnabas et Paul, c'est le premier voyage missionnaire de Paul. Cette équipe va fonder des églises un peu partout en Galatie. Seulement, ils ont été suivis par des gens qui sont venus de Jérusalem, des Juifs, convertis à Jésus-Christ, bien intentionnés, et qui se sont dit « Allez, on va aller encourager les frères et sœurs qui sont nouvellement convertis. » Le problème, c'est qu'ils ont voulu corriger l'enseignement de Paul. Et Paul écrit aux Galates, et la lettre, l'épître aux Galates, nous est parvenue. Bon, manifestement, il n'est pas content. Dans cette lettre, vous ne trouvez pas quelque chose comme « Bah, écoutez, la circoncision, c'est juste une pratique, en fait. C'est pas très grave. Si ça peut faire plaisir aux Juifs et aux judaïsants, faites-le. C'est pas grave. C'est qu'une pratique, après tout. » Non. Pour l'apôtre, forcer des non-Juifs à se faire circoncire pour être vraiment des chrétiens, c'est-à-dire pour être vraiment membre du peuple de Dieu, pour l'apôtre Paul, c'est incompréhensible, scandaleux. C'est une remise en question fondamentale de l'évangile, c'est-à-dire du salut par la foi, par la grâce seule. C'est pas juste une pratique, la circoncision à ce moment-là. Pour les juifs, c'est une pratique culturelle, importante, mais pour les non-juifs, dit Paul, c'est un autre évangile. C'est faire de l'Église autre chose que ce que Christ en a fait. Et il encourage les Galates en leur disant de ne plus faire de distinction. Et là, il en rajoute des distinctions. Galates 3, je vous ai mis le texte. Vous êtes tous par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme et femme dans le texte original, ni homme et femme. Car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Avec un seul peuple de Dieu. Les barrières entre juifs et non-juifs que certains voulaient maintenir à l'intérieur même de l'Église sont intolérables pour l'apôtre Paul. Pourtant, lui était juif, Pourtant, ces gens qui sont venus en Galatie à la suite de Paul, ils citaient des textes bibliques. Ils s'appuyaient sur les Écritures où la circoncision, c'était bien la marque du peuple de Dieu. Ils avaient des arguments bibliques. Et c'est pour ça que les chrétiens de Galatie sont troublés. Mais ces gens qui ont enseigné cela n'avaient pas compris l'Écriture, n'avait pas interprété les Écritures à la lumière de l'Évangile de Jésus-Christ. Il l'avait interprété à la lumière de leur tradition religieuse. Tous, sans exception, sont membres d'un seul peuple. Vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. Vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni hommes et femmes. Tous sans exception destinés à la même promesse, au même héritage, au même privilège. Si vous appartenez au Christ, vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Paul va même jusqu'à réinterpréter ici qui sont les enfants d'Abraham par la foi. Tous sans exception remplis d'un même esprit qui donne à chacun les mêmes dons, les mêmes charismes sans distinction. Et cela, comme en Galatie au premier siècle, est important, est essentiel, ça doit se voir dans la manière de faire l'Église, de vivre l'Église, de nos pratiques. Ça doit se voir parce que c'est ce qu'ils verront autour de nous, ceux qui observent l'Église. C'est ce qu'ils verront dans notre vie, ceux qui observent nos vies. L'Évangile, c'est la mise en œuvre de cet Évangile que le monde autour de nous doit voir. Donc ce que l'Église fait est important. L'éthique chrétienne est importante. Elle est un message pour le monde qui nous entoure. Ça veut dire que, aussi, bien sûr, l'Église doit prendre en compte la culture du monde qui l'entoure, les traditions de ce monde qui nous entoure. Vous savez, la culture, c'est un peu comme un langage, en fait. Si on parle finlandais à un français, enfin, je sais pas, il y en a qui connaissent le finlandais, peut-être que mon image n'est pas bonne. J'ai pris le finlandais à dessein parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans le monde qui parle finlandais. Quelqu'un comprend le finlandais? J'ai un ami finlandais, il me parle en anglais, hein. Donc, si on parle finlandais et qu'on prêche l'évangile en finlandais, bah, les Français vont rien comprendre. Alors c'est une langue, mais le langage, c'est un peu la même chose. Le langage, ça fait appel à toutes sortes de manières de vivre, de faire. Donc on doit adapter le langage de l'Église à la culture, une culture qui évolue et qui change. Si vous avez dans votre entourage, des parents le savent, des enfants, des adolescents ou des jeunes, vous savez que la culture change vite. Et l'Église doit adapter son message. Non pas le cœur du message, le contenu du message, mais la forme du message. Adapter le langage sans jamais changer le message. Et ça, c'est une tension. C'est une tension, dit l'apôtre Paul. Éphésiens 2,19, regardez ce qu'il dit aux Éphésiens. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, hein, il le redit, hein, mais vous êtes concitoyens des sans-gens de la maison de Dieu. » Et rassure là les Éphésiens pour leur dire « Mais vous êtes vraiment membres du peuple de Dieu. Vous êtes à part, vous formez un peuple particulier, mis à part par Dieu, saint, qui vit selon Dieu, selon l'évangile de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. » Mais Paul dit aussi aux Colossiens « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » On n'est pas dans une tour d'ivoire, d'accord? Il y a le château qui est derrière, là-bas, mon frère, il est en haut du château. Mais l'Église, c'est pas ça, c'est pas on se protège derrière des murs et puis on laisse le monde dehors, non. Conduisez-vous, sachant que nous nous conduisons, que nous vivons l'Église, que nous vivons nos vies devant un monde qui nous entoure. L'Église est radicalement différente du monde, dit Paul, dans ce qui fait sa vie. Par exemple, plus d'esprit. De séparation entre les esclaves et les hommes libres. Au premier siècle, essayez d'imaginer dans le contexte de l'époque. Et pourtant, elle doit tenir compte, avec sagesse, de ce monde qui l'entoure. On va prendre l'exemple des esclaves. Il va encourager, Paul, les esclaves à obéir à leur maître. Dans Éphésiens. Est-ce que l'évangile est compatible avec l'esclavage ? C'est rhétorique, hein, d'accord? Non! Aimer son prochain, en Jésus-Christ, ça se traduit par la croix, c'est-à-dire se rendre serviteur. Et la croix, c'est aussi la rédemption, la libération. Et se rendre serviteur les uns des autres, se rendre serviteur de mon prochain, aimer son prochain. Et Paul, précisément, a affirmé que dans l'Église, il ne peut pas y avoir cette distinction. Il le dit explicitement aux Galates, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre. Mais la culture, le système social repose sur l'institution de l'esclavage au premier siècle. Imaginez, hein, imaginez que nous, notre système occidental repose sur le salariat. Imaginez qu'il n'y ait plus de salariat. Vous avez la panique. Comment on fait? Comment on vit? Le système social de l'époque reposait sur l'esclavage. Alors comment faire dans ce monde où l'esclavage n'est pas compatible avec l'évangile, mais c'est la réalité du monde qui les entoure. Il y a une tension. Et cette tension, on la trouve dans la première épître de Pierre. C'est très intéressant. Où l'apôtre Pierre montre que l'esclave ne doit pas simplement obéir à son maître, mais qu'il doit se rendre serviteur vraiment de son maître pour l'évangile, sans jamais renier l'évangile. Mais imaginez dans une maisonnée où le maître est païen, dans une maisonnée où tous dépendent pour leur vie ou leur mort du maître de maison. Esclaves, serviteurs, enfants, épouses, tous doivent suivre le maître de la maison. Et dans le culte aussi, dans le culte qu'il rend à ses divinités, à ses dieux. Imaginez, pour un chrétien. Et Paul exprime cette tension dans 1 Pierre au chapitre 2. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite. » Et il est en train de s'adresser aux esclaves et aux épouses chrétiennes. « Une bonne conduite, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. » Vous voyez la tension qui est là. Ils peut-être vont vous dire « Vous êtes des malfaiteurs parce que vous obéissez pas comme il faudrait au maître. Vous agenouillez pas devant les divinités comme vous devriez. » En étant un bon serviteur. Mais en même temps, le maître peut avoir confiance dans un esclave chrétien, parce qu'il est digne de confiance, il ne fera jamais de compromis à cause de l'évangile dans son engagement à l'égard de son maître. Impossible de s'agenouiller devant les idoles, mais en revanche, il va être un bon serviteur, ce qui n'était pas toujours le cas dans l'Antiquité. Les serviteurs, ils volaient des fois. Mais ça voulait dire subir des conséquences. Et on sent dans la première épître de Pierre que ces conséquences, ça pouvait aller jusqu'à la mort. Bien sûr. Donc vous voyez, les apôtres ne confrontent pas le système social de leur époque, mais ils appellent les chrétiens à vivre l'évangile dans ce système maître et esclave. Et en faisant cela, ils inoculent l'antidote de l'évangile dans ce milieu social. Certes, il faudra 18 siècles pour que l'esclavage soit enfin éliminé de nos sociétés occidentales. 18 siècles. La même chose pour la place des femmes dans cette société. C'est un système social hyper hiérarchisé, patriarcal, où les femmes dépendent soit du père, soit du mari. Et dans cette société, l'homme seul représente toute la maisonnée, la famille, les serviteurs, les esclaves, les enfants, la femme. C'est l'homme seul que l'on voit de l'extérieur. Il est la tête de la maisonnée. Et Paul utilise cette image. Est-ce que la soumission des femmes dans ce contexte est une question? Est-ce qu'on s'interroge dans ce contexte social? Non, c'est une évidence. C'est une évidence absolue pour tout le monde. Alors, la condition des femmes est plus ou moins difficile et il y a plus ou moins de liberté en fonction des milieux sociaux et des régions du monde. Par exemple, il y a beaucoup plus de latitude à Rome ou en Égypte ou en Macédoine pour des femmes. On voit d'ailleurs, vous avez un exemple, Lydie, qui est une marchande, qui est une chef de maisonnée, elle, en Macédoine, à Philippe. Des femmes peuvent avoir une plus grande liberté dans certaines régions et pour une certaine classe sociale. Mais la règle générale, c'est le patriarcat, mais sous sa forme la plus dure. Alors dans ce monde-là, comment vivre l'évangile? Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme et femme. Et Paul montre comment l'évangile est l'antidote inoculé dans les relations sociales, dans les relations les uns avec les autres, dans Ephésiens 5. Alors, je n'ai pas mis tout le texte, mais vous avez à partir du verset 20. Je vous lis ce qu'il y a avant. « Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez. » On est dans une partie parénétique, là. « Que ce soit pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Faire cet effort. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche, Au contraire, soyez remplis par l'Esprit. Parlez-vous par des cantiques, des hymnes et des chants spirituels, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est Dieu et Père. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ, ainsi les femmes à leur mari comme au Seigneur, etc. etc. Là, on est vraiment dans les relations pratiques, concrètes de la vie chrétienne et de l'Église. Et remarquez ici, je lis dans la traduction Nouvelle Bible Second, concernant la relation du couple, dans le couple chrétien. Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point au verset 20. Et dans le grec non plus. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ, ainsi les femmes à leur mari comme au Seigneur. C'est une seule phrase, un seul impératif. C'est le même impératif qui concerne les relations sociales dans l'Église, soumettez-vous les uns aux autres. Et la relation mutuelle dans le couple. Soumettez-vous les uns aux autres, ça veut dire je me soumets à toi et tu te soumets à moi en fonction des charismes que j'ai. D'accord ? Vous comprenez, hein ? Soumettez-vous les uns aux autres, c'est pas je me soumets au pasteur. Non. Nous soumettons les uns aux autres. Une seule phrase, un seul impératif, le même impératif pour les relations dans l'Église et le couple. Ce que Paul est en train de dire, c'est que comme la vie de l'Église doit être caractérisée par cette soumission mutuelle qui sort de l'amour mutuel, la soumission de l'un à l'autre, réciproque, et ça c'est ce qui fonde l'égalité dans le peuple de Dieu. On n'est pas tous pareils, on n'a pas reçu tous les mêmes dons, mais nous nous soumettons les uns aux autres, nous sommes au service les uns des autres. Eh bien, dit Paul, de la même manière, dans le couple. Comment c'est possible ? Comment c'est possible dans ce monde ? Comment est-ce que ces chrétiens pourraient comprendre et vivre cette égalité ? Ils sont dans ce monde, dans ce système hyper hiérarchisé, c'est leur culture, leur vision du monde depuis des siècles, depuis toujours. Et Paul leur dit, vivez l'Évangile, hommes chrétiens. Tu es maître de ta maisonnée, tu as tout pouvoir dans cette micro-société qui t'appartient. Tu n'as de compte à rendre à personne, tu as droit de vie et de mort sur tous ceux qui sont membres de cette maisonnée. Tu es la tête de la maisonnée. Mais il leur dit, sois comme Christ. Sois comme Christ, lui qui était au-dessus de tout, il s'est abaissé lui-même et s'est rendu serviteur de tous. Il a donné sa vie pour ceux qu'il aime. Toi, fais de même pour ton épouse. Peut-être que la société gréco-romaine patriarcale n'a pas changé. Mais par l'Évangile, les relations ont changé dans la famille, sont appelées à changer dans la famille. Par l'Évangile, pour manifester l'Évangile. Comme pour l'esclavage, Paul, il a inoculé l'antidote de l'Évangile dans ce milieu social. Il faudra 19 siècles pour que la condition des femmes change enfin et commence à s'améliorer dans nos sociétés occidentales. Il faudra attendre la seconde moitié du XXe siècle quand même pour qu'il y ait le droit de vote, pour qu'une femme puisse ouvrir un compte en banque et signer un chèque. L'Église est appelée à vivre l'Évangile pleinement dans une société, un système, une culture qui bouge constamment autour de nous, sans faire de compromis sur le message. Tout en tenant compte, et c'est là qu'elle attention, de ce monde qui l'entoure, pour l'entendre, pour l'écouter. Une tension. Ce témoignage vivant à la parole de Dieu, le Logos de Christ, c'est pas une lumière qui est faite pour nous, frères et sœurs, c'est une lumière qui est faite pour le monde qui nous entoure, que votre lumière, j'ai mis le texte, vas-y si tu passes, luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos quoi ? Et qu'ils entendent ce que vous avez à dire ? Non, vos œuvres pratiques, ce que vous vivez. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'Évangile n'est jamais neutre. Il remet en question ce qui est normal dans la société antique. Complètement, il bouleverse les choses. Mais il remet aussi en question les normes religieuses même d'Israël. Il vous a été dit, dit Jésus, et moi je vous dis. Dans le sermon sur la montagne, vous vous souvenez, hein ? Même les lois civiles qui étaient données à Israël, qui sont dans l'Écriture, Vous savez, cette lettre de divorce, la fameuse lettre de divorce, hein, il vous a été dit dans Moïse, dit Jésus, vous pouvez faire une lettre de divorce et vous débarrasser de votre femme. Hein, c'était ça la démarche des pharisiens. Mais il leur dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. C'était parce que Dieu voulait. Jésus remet en question les dispositions de la loi. L'évangile, la sainte doctrine, c'est pas simplement un guide. C'est pas simplement un ouvrage qu'on consulte pour essayer de trouver des solutions, un guide. Non, c'est pas que ça. C'est une parole qui change profondément nos cœurs, frères et sœurs. Elle forme nos cœurs, elle forme nos pensées. Elle forme la vie chrétienne. La vie de l'Église, elle la définit. Donc on ne peut pas dire que la vie de l'Église, la manière de vivre la vie chrétienne est secondaire. Le rejet de l'immoralité sexuelle, la prostitution, c'est fondamental, Paul en parle. Pourtant, c'est des questions éthiques, pas doctrinales. Mais elles découlent de la doctrine, elles découlent de ce que je suis en Jésus-Christ. Elles découlent de ce que je suis en tant qu'être humain. La valeur que Dieu donne à ma vie, à mon être, à mon âme, à mon corps. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, tu as de la valeur aux yeux de Dieu, une valeur. Tu es tellement précieux pour le Seigneur. Et on n'en prend pas conscience, et parfois on fait des choses, ou on dit des choses, ou on ne réalise pas à quel point nous sommes précieux, et que nous devons garder précieux ce que Dieu nous a donné. Alors si la doctrine, la saine doctrine, la didascalia, vient de ce message de l'Évangile, vient du texte biblique, il y a une question qui va surgir, c'est comment comprendre ce que le texte dit. Et j'essaye d'aller vite maintenant parce que je vais être trop long sinon. Comment comprendre ce que le texte dit? Comment l'appliquer à l'Église aujourd'hui? Comment le vivre dans ce monde qui bouge, dans notre société qui change si vite? Regardez ce que dit l'apôtre Pierre dans la deuxième épître au chapitre 3, verset 16. « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. » C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres. Pierre a lu les lettres de Paul, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Selon Pierre, un des dangers, et ça reste à des chrétiens, un des dangers pour les chrétiens et l'Église, c'est la mauvaise compréhension de ce que dit l'Écriture. Il y a des points difficiles à comprendre. Et vous savez, frères et sœurs, ça doit nous inviter à l'humilité. Une des phrases que vous avez entendues, peut-être que vous avez dit, et peut-être que je suis coupable aussi de l'avoir dit, une des phrases qui a causé le plus de divisions dans l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, c'est « la Bible dit que ». Paradoxe, hein ? La même Bible, l'Écriture, qui enseigne l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la joie, tout ce qui permet l'unité de l'Église. C'est pour ça que l'apôtre Paul encourage les chrétiens d'Éphèse à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Frères et sœurs, c'est un effort permanent. L'humilité de se dire qu'on peut se tromper et qu'on a besoin de pondérer, de considérer les choses, d'examiner, d'étudier certaines questions et de compter humblement sur l'illumination du Saint-Esprit dans notre vie qui sera quelque chose que le Seigneur fera jusqu'au bout de notre marche avec lui. L'humilité aussi de privilégier la paix dans la différence. Il y a des différences de compréhension, d'interprétation et de pratique dans les églises et entre les églises, on le sait. Mais ce n'est pas une raison pour se jeter des anathèmes à la figure, quoi. Se rejeter mutuellement. On peut respecter l'autre et continuer humblement à avancer dans la compréhension de ces points difficiles à comprendre. C'est l'apôtre Paul, il invite les chrétiens de Philippe à, si quelqu'un a un autre avis sur ce sujet, marchons d'un même pas, marchons quand même d'un même pas. C'est une démarche dans la dépendance les uns des autres, dans l'écoute mutuelle, dans l'humilité. Donc l'Église est témoin de Jésus-Christ, je conclus, hein, par seulement nos paroles, un témoignage qui est le contenu de l'enseignement de l'Écriture, de la Bible, l'Évangile, mais aussi en acte. En acte. C'est pas étonnant que le livre qui raconte les débuts de l'Église s'appelle Acte. C'est des actes, c'est par des vies conformes à la personne de Jésus-Christ, par des projets ensemble, par des ministères, des charismes que Dieu donne à chacun et qui vont toucher ceux qui nous entourent avec l'amour de Jésus-Christ. Et l'Église porte ce témoignage par la puissance du Saint-Esprit. Si je témoigne de Christ, c'est parce que l'Esprit de Dieu a agi en moi pour rendre mon caractère conforme à celui de Jésus-Christ. Mais c'est aussi lui qui nous donne à chacun les capacités, les dons pour servir, selon les dons que l'Esprit de Dieu distribue à chacun comme il veut, indistinctement. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme et femme. Vous êtes tous un. Vous êtes un en Jésus-Christ. Voilà ce que ceux qui nous entourent doivent voir, doivent entendre de nous. Jésus, sa parole et l'action du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Merci Père pour ta parole. Merci pour ce temps où nous réfléchissons, nous méditons ensemble. Mais avant tout, Seigneur, nous laissons ta parole nous éclairer. Et nous voulons tous, Seigneur, que ton esprit nous éclaire, nous amène à comprendre ce que tu veux aujourd'hui dans notre génération, pour que nous soyons ces témoins, Seigneur, dans cette région, auprès de nos amis, de ceux qui nous entourent, de nos familles. Mais que l'Église Vie Nouvelle, à Saumur, rayonne avant tout de cela, de cette parole qui est vécue, cet évangile qui est manifesté. Que ce soit Jésus qui soit élevé, Seigneur, par ce que nous faisons et nous vivons, dans la dépendance toujours de l'action de ton Saint-Esprit, en nous et au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne, dans le nom de Jésus. Amen.